Salut les joueuses, salut les joueurs, nous sommes en mars 2026 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Lana et je suis accompagnée de Drew. Bonjour Drew.
Bonjour Lana.
Et nous accueillons Andrea de Cosmo Ludo. Bonjour Andrea.
Bonjour à tous.
Andrea, nous allons revenir sur l'actualité de Cosmo Ludo dans quelques instants, mais juste avant, on a l'habitude de faire un petit fil rouge. C'est pour te découvrir un petit peu, il n'y a pas de mauvaise réponse.
Si tu étais une mécanique de jeu.
Alors moi je serais de l'affrontement.
Si tu étais un thème de jeu.
Dur comme question quand même pour un éditeur de jeux abstraits.
Mais je dirais minimaliste.
Bonne réponse. Et si tu étais un élément de jeu ?
Ah, je serais le feu.
Ok. Réponse surprenante, on s'attendait à un dé, une carte, un machin.
Ah oui, ok.
Ah non, non, mais j'aime bien, j'adore
sortir
cette...
des.
Voilà,
des
je sors de.
C'est out of the box.
Ouais.
Mais oui, excellent. Et si tu étais un jeu ?
Eh ben alors, mon jeu, c'est Okito. Okito, c'est...
Ton jeu de cœur.
C'est mon jeu de cœur, vraiment.
Merci beaucoup.
Merci. Eh bien, on va pouvoir démarrer l'interview. Donc, Andrea, tu es cofondatrice de Cosmo Ludo,
oui.
Avec Tom, qui est sur le salon, hein, qui bosse à côté. Est-ce que tu peux nous parler de Cosmo Ludo, de quand ça date ?
Alors, Cosmo Ludo a été créé en 2020, exactement en mars 2020, et on a reçu le CABIS le jour du confinement. Mmh. Donc, autant vous dire que niveau timing, c'était bof bof. Mais donc, on a eu un an de stop quoi, avant que les festivals reprennent en 2022. Et à partir de là, on a pu présenter la gamme. Donc, on a commencé avec 4 jeux et 2 nouvelles sorties qui ont suivi par la suite. Donc on a fait un par an et c'était que du jeu abstrait jusqu'à présent. Donc 2 joueurs, 10-15 minutes la partie à partir de 8 ans. Et maintenant on évolue dans notre ligne éditoriale avec des nouveaux jeux qui ne sont plus abstraits, qui sont plus colorés et surtout multijoueurs.
Et donc Cosmo Ludo, c'est 2 personnes, tu nous as dit, donc toi et Tom.
Exactement.
Comment vous vous répartissez les rôles ? Vous faites les mêmes choses ?
Alors pas du tout, on est très très complémentaires et ça c'est très pratique. Donc Tom, il s'occupe plutôt de toute la partie créative, donc la partie à la fois design parce que lui a il est graphiste de formation et à côté de ça, il s'occupe de la relation avec les auteurs, donc le choix des jeux, tout le développement du jeu pour arriver au jeu qu'on va éditer. Et moi, je suis plus du côté administratif, rationnel, on va dire. Donc, je suis plutôt dans la logistique, la comptabilité, la finance, le côté commercial et communication, marketing. Donc, c'est bien défini, mais forcément, on n'est pas chacun cloisonné dans une case. On se partage nos avis. Enfin, on fait tout à deux, en fait.
Oui, je suppose que tu essayes les jeux et tu te donnes...
Évidemment, je fais partie du développement du jeu aussi, dans les tests de proto, dans les développements, dans la rédaction des règles aussi, qui est une grande partie et qui est très importante. Et puis, donc, c'est pour ça que je dis, on fait finalement tout à deux, même si on a chacun un petit peu notre casquette dédiée, quoi.
Et donc, la gamme de Cosmo Ludo, très identifiable, hein, ces jeux abstraits, alors qui varient un petit peu aujourd'hui, mais c'est une volonté dès le départ de partir sur du jeu abstrait pur.
Alors, nous, on n'est pas du tout issus du monde du jeu au départ. Donc, en fait, pour la petite histoire, Tom, il a rencontré Claude Leroy dans un café dans le village où il habite. Et Claude était là avec ses prototypes à la table du café. Et bon, très curieux de nature, Tom a été discuté avec lui. « Ah, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ah, ben, je fais des jeux, je suis auteur de jeux, etc. » Et donc, ils ont joué ensemble pendant quelques minutes. Et Tom a adoré son univers, qui était très austère, avec cet effet en plastique, avec des bouts de caoutchouc, de pneus, etc. Et puis, il a dit « Mais il y a un énorme potentiel dans tes jeux, il faut en faire quelque chose, mais en termes de graphisme, c'est pas foufou. » Et du coup, ils ont commencé à se voir, ils ont discuté. Et donc, comme Tom est graphiste, il s'est dit « Mais si tu veux, on peut faire quelque chose. » Et donc, ils ont été ensemble à Cannes en 2017, ils ont présenté les jeux. Et après, c'est parti de là, il y a eu un engouement, etc. Et donc, il s'est dit « Ouais, en vrai, il y a quelque chose à faire. » Et ça a commencé comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a 3 jeux de Claude Leroy dans la gamme, et le nouveau aussi.
Vous êtes basés dans la même ville, toi et Tom ? Vous vous voyez très régulièrement ou vous travaillez à distance ?
Alors, on se voit très régulièrement, mais moi, j'habite à Bruxelles et Tom, il habite dans les Cévennes.
Ok.
Et donc, moi, c'est moi qui vais dans les Cévennes. Parfois, c'est lui, donc vice-versa, c'est très, très facile. Et puis, en festival, forcément...
Vous vous retrouvez.
On se retrouve, c'est ça, exactement, on se retrouve.
Vous avez une magnifique gamme, en effet, de jeux abstraits. Et cette année, oh surprise, quelque chose qui sort du lot. Alors, première question, pourquoi ?
Alors, c'est un choix qu'on a fait en tant qu'éditeur pour élargir notre catalogue. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'étiquette d'éditeur de jeux abstraits, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est sortir un petit peu de cette étiquette et proposer quelque chose de différent, qui va être avec un côté plus familial, plus coloré, et aussi multijoueur. Donc ça veut pas dire qu'on va retourner notre veste et qu'on fait plus du tout des jeux malins et stratégiques. C'est juste qu'avec la nouvelle gamme qu'on va sortir, enfin qui sera pas vraiment une gamme, mais qui sera une nouvelle proposition, qui sera pas du jeu que à deux abstrait, on va toucher un autre public aussi qui naturellement va pas se diriger vers nos boîtes qui sont très belles, très minimalistes, mais pour lesquelles il faut avoir déjà un petit peu de curiosité. Ce ne sont pas des boîtes vers lesquelles on irait par soi-même dans une boutique de jeux si on n'aime pas les jeux abstraits de base, parce que nos jeux sont souvent aussi mis dans la catégorie jeux abstraits ou jeux à deux. Du coup, le fait de changer de direction artistique, beaucoup plus coloré, avec une légère thématique aussi, ça permet d'ouvrir l'accessibilité à un public plus familial et plus large. Déjà parce que le visuel de la boîte est plus parlant que la gamme abstraite. Là, on a pris le choix de mettre le matériel en avant sur le facing. Et après, quand tu retournes la boîte, forcément, t'as le mock-up, etc. Mais c'est beaucoup plus parlant que la gamme abstraite. Mais ça n'en est pas moins stratégique au final, même si c'est quand même plus accessible.
Oui, parce que c'est un jeu qui va jusqu'à 4 joueurs et joueuses.
Oui.
Donc, effectivement, permet d'ouvrir à des familles là où, peut-être si on est 3 dans la famille, c'est peut-être un peu moins naturel d'acheter un jeu à 2.
Donc, exactement.
J'avais envie de te poser une question peut-être un petit peu piège, mais c'est quoi pour toi la définition du jeu abstrait ? Parce qu'il y a toujours une polémique
là-dessus. Alors ça, c'est toute la question qui revient souvent. Après, il y a une définition officielle et c'est celle-ci. Donc, en fait, un jeu abstrait, c'est un jeu à information complète. Donc, ça veut dire qu'on voit toutes les infos des deux joueurs. Donc, vous n'avez pas de pioche ou de lancer de dés qui va donner une information qu'on n'a pas au début. On joue à tour de rôle. Et c'est pas le fait que le jeu soit thématisé ou non. Parce que souvent, les gens pensent qu'un jeu abstrait, c'est un jeu qui n'a pas de thématique. Sauf que si on réfléchit 2 secondes, les échecs, c'est peut-être le jeu abstrait le plus connu dans le monde, mais il est hyper thématisé. Il faut capturer le roi, il y a la reine, il y a le fou. Même si visuellement, c'est pas thématisé comme tel, dans le pitch du jeu, c'est d'aller détrôner le roi de l'adversaire. Donc pour nous, le jeu abstrait n'est pas du tout lié au fait qu'il y ait une thématique ou non, parce qu'il y a plein de jeux qui sont abstraits, mais il y a une thématique qui a été collée dessus. Et comme le pitch marketing te vend le jeu comme un jeu à deux de stratégie, mais pas comme un jeu abstrait, mais si on réfléchit 2 secondes, en fait, c'est complètement un jeu abstrait. Donc voilà, c'est pour ça que notre gamme abstraite est du jeu abstrait, parce que c'est la formation complète, on voit ce que l'autre peut faire. Donc c'est ça la stratégie aussi, c'est d'anticiper et d'essayer de bien anticiper pour pouvoir gagner, mais d'avoir les infos. Là où le nouveau jeu Kumata, là, on n'a pas toutes les infos, parce que vous avez 2 pioches devant vous. Donc vous devez jouer une des 2 tuiles qui est devant vous, mais vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous. Ou en tout cas, vous ne savez pas dans quel ordre elles vont sortir. Et c'est ça qui fait que c'est pas un jeu abstrait.
Plus le 4 joueurs.
Plus le 4 joueurs. Après, on peut avoir un jeu abstrait à 4 joueurs. Par exemple, Blocus, c'est un jeu abstrait à 4 joueurs. On a les informations complètes. Ça se joue à tour de rôle. Et le fait qu'il n'est pas thématisé non plus, là, on est sur des couleurs. Mais Blocus est un jeu abstrait à 4 joueurs. Mais après, en algorithme, c'est difficile de faire un bon jeu abstrait à 4 joueurs. Parce que forcément, il y a 3 personnes qui passent après toi dans le tour. Donc,
Et justement, cette gamme... Or abstrait, on va dire, oui. C'est quelque chose que c'est un one shot ou c'est quelque chose que vous allez développer dans le futur, avoir comme ça 2 gammes peut-être en parallèle, comment ça se passe?
L'idée c'est de garder notre gamme abstraite, elle n'est pas figée, donc on a envie de la développer, mais pour l'instant on va plutôt développer. Je dirais pas que c'est une nouvelle gamme parce que tous les jeux qu'on fera par la suite qui ne seront pas abstraits ne seront pas nécessairement la suite de Kumata, mais notre idée c'est vraiment de garder des jeux multijoueurs, plus familial, mais on va pas changer non plus notre ADN, on part pas sur des jeux d'ambiance pour 15 personnes où on va tous chanter quoi. Donc non, on reste sur des jeux malins, stratégie, multijoueur, mais ce qu'il faut dire aussi c'est que Kumata a un mode 2 joueurs. Donc on a un vrai jeu à 2 joueurs parce qu'on adore ça, et quand on retourne le matériel, on a un vrai jeu à 3 et 4 joueurs. Donc en fait, ça vraiment ouvre une porte à un autre public que le 2 joueurs classique, mais on les oublie pas non plus.
Est-ce que c'est Claude Leroy qui est venu avec une idée d'un jeu 4 joueurs, ou est-ce que c'est vous qui avez dit on aimerait élargir la gamme, et est-ce que tu as une idée?
Alors, Kumata qui a été présenté au départ par Claude, son sa version originale, c'était un jeu abstrait à deux. Donc c'est ça qui est marrant. Mais avec Tom, on s'est dit, ok, le jeu est génial, mais en vrai, en l'état, il est beaucoup trop stratégique par rapport à la cible que nous on a avec notre jeu, avec notre gamme de jeux abstraits, qui est aussi très directe. On comprend en 2 minutes, on joue en 2 minutes, on peut se réduire la tête si on veut, mais pas tout de suite à la première partie non plus. Et donc en fait, la première version de Kumata, on était plus sur un peu trop triturer la tête et voilà. Donc on a décidé de le développer avec Tom pour arriver à une version à 3-4 joueurs aussi, tout en gardant la version à 2, mais en enlevant ce côté abstrait. Et c'est pour ça qu'on a fait des piles, qu'il y a un totem, que le matériel est réversible, etc. Donc on a pris le temps de développer le jeu pour avoir la version qui à nous paraît la plus cohérente et nous plaît, tout en gardant la profondeur de jeu qui n'est pas perdue avec ce qu'on a choisi de faire.
J'avais une question, moi, plus sur la gamme précédente, donc purement abstraite de joueurs. Comme tu as dit, c'est un peu une niche dans le jeu de société qui est un peu une niche de la société.
On est niche dans une niche dans une niche.
Donc, vous ressentez vraiment cet effet-là, effectivement. Vous sentez que vous êtes un petit peu à la marge des autres jeux ou
Mais en fait, on va dire que le monde, enfin, les jeux et le monde ludique en soi est déjà une niche dans la société actuelle. Le fait d'avoir du jeu que à deux, c'est une autre niche. Et on est encore dans la niche d'après, c'est-à-dire que c'est du jeu après abstrait de réflexion. Donc là, on l'a vu en 2025, il y a énormément de jeux à deux qui sont sortis. Il y a eu un gros boom après le Covid et une volonté de chercher des jeux à deux et qui sont calibrés pour deux. Parce qu'après, il y a plein de jeux aussi qui sont multijoueurs, mais qui fonctionnent pas bien à deux, en fait.
Vous étiez précurseur dans le jeu à deux.
Mais finalement, oui.
Est-ce que financièrement, être dans cette toute petite niche était suffisant? Est-ce que c'est aussi une volonté financière d'élargir cette gamme?
Oui, absolument. Donc, pour en toute transparence, comme c'est du jeu de niche, forcément les volumes que l'on fait ne sont pas les volumes d'un jeu familial avec un public beaucoup plus large. Donc ça, c'est tout à fait normal, surtout dans le canal de distribution qu'on a, qui est la distribution dans les boutiques de jeux de société. Parce que forcément, on est noyé entre guillemets. Enfin, tout le monde le sait, les sorties, c'est à Google. Après, c'est ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne pas, il n'y a pas de réassort et on l'oublie assez vite. Après, la force des jeux abstraits, c'est que c'est intemporel, universel, donc il n'y a pas d'effet de hype que certains jeux peuvent avoir, mais qui du coup vont rester sur la durée. Mais pour ça, il faut l'avoir en boutique, il faut avoir envie de le présenter quand quelqu'un vient et est intéressé par ça, ou justement la volonté de le présenter à des gens qui n'iraient pas vers ça naturellement, mais à qui ça pourrait tout à fait plaire, parce que c'est du deux joueurs, ça s'explique en 2 minutes, ça se joue en 15 minutes, et il faut pas être joueur pour aimer les jeux abstraits. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent peut-être pas. Ils sont peut-être pas conscients de ça. Et c'est ça qu'on voit nous aussi en festival. Quand on présente la gamme abstraite, on a tendance à attraper un petit peu tout le monde. Ah, vous êtes deux, je teste un petit jeu, etc. Et au début, ils sont là. Ah non, mais moi, j'aime pas trop les jeux comme ça. On leur pitch le jeu. Ah, c'est vrai que ça a l'air sympa. Ça dure que 15 minutes. Ok, je teste. Ils le testent et ils sont ravis. Et le taux de conversion, en vrai, c'est 90% facilement quand on présente le jeu. Mais malheureusement, en boutique et tout ça, on peut pas tout tester. Donc, c'est tout un engrenage, en fait, qui fait que finalement, les volumes sont pas les volumes prévus. Et du coup, nous, en tant qu'éditeurs, il faut bien qu'on vive, comme tout le monde. Donc, on doit aussi se diversifier pour aller vers des jeux qui ont un aspect plus commercial, mais qui ne vont pas à l'opposé de ce que nous on aime bien faire, c'est-à-dire des jeux simples, malins et universels.
Et de mon point de vue, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu seul sur le marché des jeux abstraits, c'est moi ou bien?
En gros, notre plus gros concurrent, qui est un sacré concurrent, c'est Gigamic.
Oui,
sur la gamme abstraite.
Ouais, c'est vrai.
C'est avec ça. Jeux... Donc on va dire, il y a Funforge qui avait fait Donuts, Tapas, vite fait, mais on les voyait pas comme des concurrents en soi. Parce que eux, ils les avaient fait, mais thématisés. Et pour nous, c'est pas du tout notre style. Et après, il y a Blue Orange qui se remet un petit peu au jeu abstrait. Il a réédité Gigès de Claude Leroy, justement. Ils ont Goblet qu'ils ont réédité aussi en format...
Deluxe, ouais.
Deluxe, plus sobre, un peu à la Gigamic, je dirais. Donc, avec une boîte blanche. Alors qu'il l'avait avant, plus en mode enfant, avec les Goblet colorés. Donc là, c'était plus pour un public enfant, je pense, de moi, mon point de vue extérieur. Mais après, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, éditeur spécialisé en jeu abstrait, ça, c'est sûr que c'est nous, en tout cas en France. Après, il y a certains éditeurs qui, parfois, sortent un jeu abstrait par-ci, par-là. Mais après, en vrai, comme le jeu abstrait est universel et intemporel, on a intérêt à le faire. Et, donc, pour les jeux abstraits...
Ouais, mais c'est vrai que je pensais plus à toute la gamme Gigamic, effectivement.
Ouais, c'est les quartos, les corridors.
Les corridors avec... Comet qui est sorti récemment.
Ouais.
Et après, par exemple, la gamme abstraite de Gigamic, c'est pas du tout les mêmes jeux abstraits que nous. Ouais. Parce que justement, eux, dans les mécaniques de jeux qu'ils ont choisies, qui... bon, après, ils sont magnifiques et c'est aussi des jeux objets qu'on va avoir tendance à laisser sur les tables. Mais eux, dans les mécaniques de leur sélection de jeux abstraits, c'est très en entonnoir. Donc, ça va forcément vers une 20 parties où il y a moins de contrôle. Ou justement, comme je disais tout à l'heure, ben, tu peux avoir cette sensation de dans trois coups, tu sais que t'as perdu.
Oui.
Là où nous, on a beaucoup plus de contrôle jusqu'à la toute fin. Et on a moins peut-être cette sensation de « ouais, c'est bon, t'as gagné ». Mais non, en fait, j'ai encore une chance de gagner. Et donc, je l'ai vraiment jusqu'au bout du bout. Quoi. Et donc, c'est là qu'on se diffère. Après, bon, sur le format, sur le prix, eux, ils sont vraiment sur du matériel très qualitatif qui est plus cher aussi, mais vraiment du bois en mode jeu-objet. Et nous, on est plutôt sur un format de boîte très graphique, très design. C'est aussi très joli de les avoir dans la bibliothèque parce qu'on a un format vertical pour les mettre justement dans la ludothèque. Mais après, on a du matériel en bois aussi, mais nos plateaux sont en carton. Mais c'est du super carton, hyper qualitatif. On a fait des marchés de Noël où on présentait Camon. Tous les plateaux se sont pris la neige parce que le vent était dans le mauvais sens et donc on s'était pris tous les flocons sur le matériel. Et je présente encore ces jeux aujourd'hui. Ils n'ont pas condolé. C'est vraiment hyper content de la qualité du matériel. Quoi. Mais après, nous, c'est vrai qu'on est sur des jeux moins chers aussi. C'est 26€ pour la gamme abstraite. Ils sont tous au même prix. Mais on est sur du matériel quali, en bois, magnet box et tout ça. Donc,
je ne te cache pas que l'effet collection marche beaucoup.
Ouais, c'est magnifique. Je ne te cache pas que c'était voulu.
Son côté marketing, bien sûr.
Oui, c'est ça.
Vous avez une activité à côté ou vous vivez uniquement de
la... Alors moi, j'ai une petite activité à côté en mi-temps et Tom, il est là-dessus à plein temps.
Ça prend du temps de développer.
Ça prend du temps de développer.
Et par contre, vous faites tout en interne. Vous ne faites pas appel à des prestataires, graphisme, design.
Non, jusqu'à présent, on a tout fait en interne, sauf Kumata où là, on a fait appel à une illustratrice externe qui nous a fait un design absolument magnifique et on est ravis parce que ça plaît autant au public qu'à nous. Donc ça c'est très chouette. Mais sinon pour la gamme abstraite, c'est Tom qui est graphiste de formation, qui s'occupait de toute la charte graphique que moi j'adore. C'est hyper épuré, c'est hyper minimaliste. Le choix des couleurs, ben, voilà. Moi je dirais pas le contraire. Mais sinon tout est en interne, oui. Donc la casquette polyvalence, elle est bien là.
Et du coup cette année vous présentiez Kumata. Enfin, je dis présentiez parce que nous sommes dimanche. Hein.
Oui.
Vous présentiez donc Kumata au Fiche de Cannes. Est-ce que vous avez vu une différence par rapport à l'intérêt des joueurs? Par rapport aux années précédentes où vous aviez que ces jeux abstraits.
Alors on voit l'intérêt, on voit que les gens ont une approche différente par rapport à la boîte. Ça va pas être un public qui aime bien les jeux à deux parce que maintenant tout le monde sait ce qu'on fait et ils sont très attirés par la boîte visuellement. Ils adorent le fait que ce soit coloré. Ça les rassure parce qu'ils voient que c'est des dominos donc ils se disent pas que c'est compliqué. En vrai le jeu n'est pas compliqué, hein. Mais on va dire que pour l'attirance que la boîte a, ça fonctionne très bien. Et une fois qu'on leur explique le jeu, ah oui mais c'est facile. Et puis après la première partie, mais on peut quand même réfléchir, etc. Donc en fait, ça a vraiment le choix qu'on a fait dans les illustrations et dans le facing de la boîte et tout fonctionne très très bien et représente très bien le jeu au final.
Les jeux de la première gamme abstraite étaient des jeux en développement pur, qui venaient de Claude Leroy. Est-ce que vous avez jamais pensé à localiser des jeux en les rapprochant pour les faire rentrer dans cette gamme?
Alors nous, dans la gamme actuelle, on a travaillé avec trois auteurs. Donc on a Claude Leroy qui a fait Mana, Pantarei et Okito. On a Jérémy Partinico qui a fait Yoxi et Oxono et Bruno Catala qui a fait Camon. Donc après, on a plein de propositions d'auteurs, mais ça n'arrête pas. Parce que forcément, comme on a la casquette abstraite, dès qu'un auteur fait un jeu abstrait, ils disent « Ah, mais Cosmo Ludo, mon jeu est pour eux ». Sauf qu'en fait, c'est pas parce qu'on fait du jeu abstrait qu'on est intéressé par tous les jeux abstraits. Donc c'est comme n'importe quel jeu. Un jeu de pli va pas spécialement être le jeu de pli pour tous les éditeurs. Donc nous, on a quand même une ligne éditoriale assez stricte. Donc il faut que la règle s'explique en 2 minutes. Le livret de règles, il doit pas dépasser une page, peut-être une page et demie, mais avec les illustrations, enfin avec les schémas, et ça doit pas dépasser 15 minutes. Et la sensation, enfin la prise en main et l'émotion du jeu doit être instantanée. C'est-à-dire qu'au bout du deuxième coup, t'as compris ce que tu devais faire. Et qu'il faut pas attendre et te dire que, ah oui, bon, ok, donc si je fais ça, donc trois coups à l'avance, tu sais que t'as perdu. Là, nous, on a vraiment du contrôle jusqu'à la toute fin de partie. Donc ça fait quand même des checklists qui sont quand même... Elles sont assez simples, mais finalement, les choses les plus simples sont parfois les plus difficiles.
Donc que du développement interne et maîtrisé, pas de localisation de coup de cœur.
En tout cas, pas pour l'instant. On a déjà vu des auteurs quand on va à Essen, Nuremberg ou sur d'autres festivals, même ici au Fige. Mais souvent, ce qu'on voit n'est soit pas fini, soit ne correspond pas du tout à notre ligne éditoriale, parce qu'en soi, mécaniquement, ça fonctionne, mais commercialement, ça fonctionnera jamais.
Et à l'inverse, les jeux Cosmoludo sont distribués à l'étranger ?
Alors, les jeux Cosmoludo de la gamme Abstraite a été distribué à l'étranger, mais ça, c'était nous. Donc, en fait, on a géré notre export nous-mêmes. Donc, on a une dizaine de pays dans lesquels la gamme Abstraite est distribuée. Et maintenant, avec Kumata, on a l'exclusivité d'export avec Black Rock Games, qui va gérer la France, mais aussi l'export au monde. Et après, on est distribué par Geronimo, par contre, en Belgique. Mais Geronimo, c'est un distributeur belge qui fait le Benelux, quoi. Donc, Luxembourg, Belgique et Pays-Bas.
Okay. Oui, on sait que les boutiques belges râlent parfois parce qu'elles ont un gros décalage inexpliqué avec la France.
Oui.
Sur les dates de sortie. Et oui, c'est ça. Quand on entend ça vu de l'extérieur, enfin, vu de la France, en tout cas, on comprend pas le pourquoi non plus, hein, c'est clair.
Mais après, ça dépend des distributeurs, parce qu'il y a des distributeurs français qui gèrent la Belgique aussi. Il y en a d'autres qui font que la Belgique, enfin, que le Benelux. Donc, c'est vrai que ça dépend de chacun, quoi, ce qu'ils choisissent de faire.
Donc là, sur le salon, vous présentez Kumata. Il n'est pas encore sorti ?
Non. Alors là, il est en avant-première sur le salon, mais il sortira officiellement en boutique le vendredi 13 mars. On espère que ça nous portera chance.
Et vous avez tout vendu ?
On a presque tout vendu. Oui, on est le dernier jour, donc il nous reste quelques boîtes.
Excusez-moi, je reviens, j'y vais, faut que
j'aille. Et tu auras un badge et un magnifique sac Kumata exclusif.
À l'heure où nos auditeurs nous écoutent, donc il est déjà disponible ?
Oui, là, il est déjà disponible en boutique, mais il sera aussi disponible sur Board Game Arena. Donc, on est très content de le développer sur la plateforme. Et il y aura le mode 3-4 joueurs et le mode à 2, comme dans la version physique.
Ok. Et ça, c'est pour
ce sera courant avril.
Ok.
Donc, peut-être là, si
peut-être
vous écoutez.
Peut-être là maintenant. Voilà, ça dépend si la bêta a été validée ou pas. ça dépend.
Est-ce qu'il y a beaucoup de projets dans les tuyaux en ce moment ?
Alors, on a des projets dans les tuyaux. Après, on n'est que deux, donc il n'y en a pas beaucoup parce que c'est un à la fois. Mais oui, on a déjà le prochain qui sera a priori, rien n'est figé, mais pour Cannes l'année prochaine.
Donc, dans cette nouvelle gamme colorée, thématisée.
Exactement. Thématisée, colorée, multijoueur. Et je n'en dis pas plus pour l'instant.
Mais la gamme Abstraite ne s'arrête pas, parce que moi, il faut que je complète ma collection. Quand
non,
même.
Non, la gamme Abstraite ne s'arrête pas, mais on va dire qu'aujourd'hui, on va avancer sur les nouveaux jeux qui ne sont plus abstraits, mais on a d'autres choses dans les tuyaux aussi pour la gamme Abstraite, mais ça viendra dans un second temps.
Ok.
Ouais.
Vous restez sur à peu près un jeu par an ?
Oui. Ouais. À deux, si on veut faire les choses bien, sachant qu'on sort un petit peu de notre zone de confort aussi, on préfère prendre le temps de bien faire les choses, de faire des bons choix d'illustrateurs, illustratrices, pour garder le cap qu'on s'est donné pour l'instant. Oui.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Merci pour votre temps, c'était très agréable d'être avec vous. J'espère que ça aura donné un peu d'infos à vos auditeurs sur ce que nous on fait, vers quoi on va aussi. Puis voilà, hein, si jamais, il y a toujours le site cosmoludo.com si vous voulez voir les jeux, suivre l'actualité et découvrir la suite.
Alors, on n'est pas là pour faire de la pub pour ton jeu, mais si les gens veulent écouter notre avis, on en a parlé dans le premier débrief de Cannes de cette année, on est allé l'essayer.
Oui. Génial. On a compris qu'on est assez friands des jeux un peu abstraits, un peu brainy comme on dit en anglais.
Ouais.
Et ça rentre, effectivement, même si ça sort de la gamme Cosmoludo classique, ça reste quand même un jeu de réflexion et ça amène le côté interaction à quatre qui est très sympa, effectivement. Ouais. Et presque, comme je le dis souvent, du un contre tous tournant, hein, parce qu'à chaque
absolument.
Coup, on regarde qui est en tête, puis on se met à trois contre un, puis c'est le joueur suivant, puis ça revient.
On a les petites alliances, mais qui changent à chaque tour, donc c'est ça qui est intéressant, c'est le vrai côté interactif. Et voilà.
Très bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Andrea, pour ton temps, pour ta disponibilité, pour tes explications et cette découverte, cette introduction à Cosmoludo.
Merci à vous pour votre accueil, c'était très chouette d'être là.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.